donc c'est mes trois règles. J'ai 45 ans, j'ai réussi à synthétiser en trois règles. Et j'ai déjà partagé avec vous. Hein. Donc la première règle, qui est très importante, puisqu'on est en ville, c'est qu'il faut qu'il y ait des toilettes régulièrement. Si on n'a pas ça, les gens sont stressés, sont pas attentifs. C'est important.
Ouais.
La deuxième, c'est qu'il faut toujours improviser. Bah sinon on s'en fout, je veux dire, sinon on va au musée, on paye quelqu'un pour visiter guidée. C'est un art. C'est un art. Donc ça va avec l'empathie et le polyphonique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours improviser parce que les publics sont toujours différents. Qu'à des sportifs, on va donner du sport, qu'à des cultivés, on va donner de la cultivation. Et donc, il faut vraiment, en fait, il faut être toujours à l'écoute de la demande. Essayer de répondre à la demande, mais de la manière la plus ambiguë pour qu'eux approfondissent et amènent. Donc, il faut toujours improviser parce que, en fait, c'est une forme ouverte qui accueille le public et le public participe. Quoi. C'est de l'auto-formation en commun. Et le dernier, c'est qu'il faut être drôle. Sinon, à quoi ça sert? Si c'est l'essentiel, voyez, d'avoir des toilettes, d'être accueillant et d'être drôle, c'est qu'on passe un bon moment ensemble.
Comment se passe quand tu dois donner un rendez-vous? On imagine quelqu'un qui veut donner un rendez-vous à un groupe qui ne sait pas trop faire. Le rendez-vous, tu les donnes où en général? Le matin? Tu fais de quelle heure à quelle heure? Sur des choses très pratiques comme ça, à partager éventuellement?
Il y a des demandes, donc il faut écouter la demande. Il faut écouter. En fait, c'est souvent les gens posent des questions parce qu'ils ont envie que tu leur dises oui, c'est bien. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Les gens te demandent de faire des choix un peu incompréhensibles parce qu'en fait, ils ne te demandent pas de faire un choix, ils te demandent de dire oui, vous avez bien choisi. Ils ont peur d'assumer leur propre truc. Je sais que c'est beaucoup plus facile toujours de prévoir des boucles. Après, ça dépend de la demande du public. J'ai une espèce de vitesse moyenne, donc j'arrive à lire sur la carte à peu près ma vitesse. Donc je fais grosso merdo du 1 km/h. Je peux faire moins, je peux faire plus. Ça dépend de la demande. Et tu t'adaptes. Donc en fait, la marche un peu intense, traversée, hein, la traversée de ville, elle va être à plus que ça. Tu peux monter à 2 km/h, rarement plus. Et après, c'est les célèbres la canne-bière en 3 jours. Je peux faire du 100 mètres à l'heure. C'est très très drôle aussi. Ça fait mal au dos. Les gens qui ont le dos fragile aiment mieux marcher. La marche est confortable en fait. Hein. C'est ne pas marcher qui est difficile. Et puis je sais pas comment dire. C'est toujours. Alors, le lieu de rendez-vous. Donc, le lieu de rendez-vous, il faut bien préciser. Quand on précise un lieu de rendez-vous, il faut se mettre dans la peau de celui qui va. Dans la tête de celui qui va le lire. Il faut prévoir d'avance comment il va pas comprendre. Parce que là, par exemple, je donnais un rendez-vous sur le pont dans la gare d'Aix-TGV. Et j'ai eu deux demandes de gens qui m'ont dit: ouais, mais il y en a beaucoup des ponts. Je dis: non, dans la gare, il y a un pont. Les autres ponts, ils sont hors de la gare. Et j'avais pas prévu qu'on pouvait mal interpréter, mal comprendre, qu'en fait ils pensent à des gros ponts routiers, et c'est normal, et moi je pense à une petite passerelle piétonne, et eux ils l'ont pas vu.
Une chose qui fait partie de tes outils, c'est des documents d'archives que tu amènes et qui sert aussi à la mise en scène de la parole. Est-ce que tu préconises ça, ou c'est juste que c'est ta façon à toi de
faire? Ouais, faut inventer. Je m'imaginerais mal être tout nu. Tu le fais toi les documents, montrer des documents, Boris?
Des fois oui, des fois non.
Voilà, pareil, des fois oui, des fois non. Ça joue, ça va avec le trac de comédien, le document, ça me rassure. Moi, je me rappelle être petit, mais enfant de mes parents, et partir en vacances avec des dictionnaires dans le sac. Quoi. Ça rassure. Avoir des documents, ça rassure. Donc, évidemment, ça amplifie le propos. C'est super, donc vaut mieux en avoir. Moi, je trouve ça intéressant, c'est docte. Montrer les livres aussi, c'est pas mal. Et puis je développe une espèce de manière. Alors j'ai rêvé pendant longtemps de la tablette, ordinateur tablette, où dedans j'ai toutes mes images. Puis comme ça elle serait assez grande et je pourrais montrer plein d'images différentes, enregistrées sur le truc. Et toutes les tentatives ont été catastrophiques. La tablette elle est petite, la tablette elle est pas complète, elle disparaît avec la lumière du soleil. Tu vois rien du tout comme ça là. Donc j'ai chez moi à peu près une tonne de papier qui sont 20 ans de photocopies. Donc j'ai tout un système de je range mes photocopies par code postal, je range mes photocopies par géographie, comme ça me permet de faire des grands tas. Il y a Marseille, hors Marseille, c'est très simple, c'est divisé comme ça, dans Marseille il y a les arrondissements, hors Marseille c'est par code postal. Et puis j'aime beaucoup le papier, le froisser du papier, le plier, déplier, ça va avec la carte. La carte est le premier document. Hier, ça nous a manqué beaucoup la carte. Dans les promenades, je suis plus souvent dans la carte que hors la carte. Je préfère regarder la carte et puis à un moment, ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Mais c'est un des documents. Et les documents, après, ben, c'est ce que tu veux. Donc là, je fais un truc sur Firmini. Alors, je vais avoir quoi ? J'ai des passions personnelles pour les analyses de photos aériennes et de plans anciens. Mais on n'est pas obligé, hein. On n'est pas obligé. Ça me pompe des heures. Je prends beaucoup de temps à caler les uns sur les autres, à regarder tel toit quand il apparaît, quand il disparaît. On peut interpréter la pousse des arbres, quand est-ce qu'ils ont été plantés, pourquoi cela plutôt que d'autres. Enfin, c'est passionnant, quoi. Hein. L'évolution du territoire, tu as des vérités là-dedans. Ça m'arrive d'aller. J'ai eu une commande il n'y a pas longtemps sur à Saint-Mille des Remparts, un endroit où j'ai jamais été. Donc, on me demande de faire visiter un endroit où j'ai jamais été, j'ai jamais eu de préparation. Il y a les gens de la mairie qui sont là et je m'en fous, je dis oui, quoi, j'y vais. Et donc, j'ai préparé pas mal de cartes, les unes sur les autres. C'est chez moi, ça me prend 2 heures. Je mets les cartes les unes sur les autres, comme ça. Puis j'ai déjà une espèce de dynamique du territoire, donc je vois comment ça marche. Puis quand j'arrive, je suis pas tout nu. C'est-à-dire qu'avec cette expertise-là, j'arrive à discuter avec des gens qui connaissent déjà le lieu, alors que moi, je le connais pas, en leur amenant des éléments d'information qui les intéressent.
Et quand tu guides, tu parles très fort, en général. Est-ce que c'est parce que, est-ce que pour toi, ça fait partie, c'est un ingrédient important de la marche, cette façon de physique de...
Ouais, j'ai découvert avec le temps, mais j'aime beaucoup ça. Hein, moi, ouais.
C'est ton style. C'est ton style.
Et c'est plus que ça. C'est ce que disait Charlie tout à l'heure. Là, vous voyez, on est pieds nus dans l'herbe. Ça change complètement le rapport à l'environnement. On parlait du faire toc-toc sur les murs. Ben, c'est toc-toc, c'est le corps qui essaye la matière, qui voit la matière. Et le toc-toc, c'est dans l'oreille, on l'entend. Et le cerveau mélange la sensation de l'épiderme, le bruit du choc. Et on a une empathie avec la matière. Et donc le coup de la voix, par exemple. Alors, c'est le fait d'avoir des grands groupes. Et puis je vois pas pourquoi on organise un truc, etc. Il faut que la parole porte, quoi. Et moi j'ai découvert ça avec comme le théâtre, ça fait partie des compétences de comédien. T'as deux domaines, t'as le clown et le troubadour. Donc le troubadour, c'est être dans la rue, occuper l'espace, ça va être drôle. Et c'est cette recette très très simple de la réverbération sur les murs. La voix ne doit pas être projetée sur le public. Si tu le fais, c'est une agression, puisque la voix est forte. La voix doit être portée sur le bâti pour se réverbérer et revenir vers toi et le public. Et comme ça, en fait, ils entendent deux fois. En même temps, le son est deux fois plus fort. Ça, c'est le troubadour. Et le comédien, c'est ça va avec amener des papiers ou pas amener des papiers. C'est la gestion du trac, c'est connaître le clown en soi, accepter son image... Donc il faut beaucoup travailler sur son... Je sais pas, j'en connais, ils sont timides. Et donc évidemment, on fait ils font des promenades, ils n'arrivent pas à porter la voix, ils n'assument pas leur apparence, c'est pas facile. Et là, j'ai pas de recette, quoi. C'est juste j'ai rencontré des comédiens, ça va avec l'impro, ça va avec... s'en foutre de son ventre ou de son allure. Voilà.
Je pense que ça peut vachement aider de savoir s'il y a des fois des marches qui ne se sont pas bien passées, tu n'étais pas content et que tu as compris pourquoi ensuite et que tu as amélioré, fait un petit réglage. Partager ce genre de truc là.
Alors, ce que j'ai oublié de dire avec le comédien, c'est l'apparence, mais je préfère les trucs un peu. C'est le parapluie rouge. C'est les guides officiels payés par les agences de voyage. Ils ont un parapluie rouge parce que même si t'es pas en position de chef, il faut au moins savoir qui on suit, quoi.
Et donc, tu conseilles d'avoir un.
Le parapluie rouge des guides, c'est un point de repère tout simple, quoi.
Donc, toi, tu as un pantalon fluo.
Oui, mais c'est juste se faire remarquer assez facilement, quoi. Et quand on a des grands groupes, ça devient indispensable. Quand tu dépasses une jauge à 25 avec des gens que tu n'as jamais vus avant, il faut absolument qu'ils interprètent qui est le chef, où ça se passe. Il y a cette règle en plus aussi, qui est la règle du clergé, que j'aimais beaucoup. C'est lui qui m'avait dit ça. C'est qui ne suit pas, ne suit pas. Et c'était vachement bien parce que ça voulait dire toi, tu es le guide, tu as fait beaucoup de travail de préparation, de digestion de la parole, et tu es en pleine concentration avec ton auditoire pour arriver à ressortir, d'être au mieux, quoi. Tu fais un effort, quoi, pour que ce soit bien. Et pour pouvoir te focuser comme ça, là, te concentrer sur cet effort, il faut que tu oublies des choses, il faut que tu oublies le talent d'organisateur, il faut que tu oublies que tu n'es pas la maman du groupe, que tu n'es pas là pour attendre les derniers, que tu n'es pas là pour être sûr que tout le monde a bien compris. Et donc tu te délaisses de ça, celui qui ne suit pas, ne suit pas. Toi, tu fais ton travail, le public fait son travail qui est d'être concentré. et ouvert et participatif, etc., etc. Alors les qui ne marchent pas. Alors les qui ne marchent pas, je pense à une. Et franchement, alors et en fait, il y en a souvent des qui ne marchent pas. C'est des malentendus. C'est, tu prépares une rando culture pour des sportifs, tu vois. C'est tout con, hein. Mais ils s'emmerdent avec leur bâton comme ça là. C'est ennuyeux. Ah moi j'aime bien. Une qui avait pas marché, c'était assez étrange. C'était il y a la politique. Faut faire vachement gaffe. Et les 20 dernières années, il y a une espèce de possibilité d'avoir une certaine parole en public qui s'est pétée parce qu'on interprète tout très très fort. Il y a eu au moment où il y avait Sarkozy, c'était assez difficile parce que soit tu étais pour, soit tu étais contre. Et moi je me rappelle d'un type en particulier qui pensait que je ne faisais que de la propagande anti-Sarkozy, alors que pas du tout, j'étais en train de parler des arbres du cours. Et oui, mais c'est vachement dur, c'est super dur. C'est comme quand les politiciens marseillais disent qu'on fait du Marseille bashing quand on fait des documentaires sociologiques, tu vois. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est super dur. C'est comme les gens qui ont la foi, c'est très dur de discuter avec eux. Alors donc ça peut pas marcher parce que t'as mal prévu qui était ton public. Le coup du malentendu de la part du public, bah écoute, je sais pas comment dire, ça tu gères pas, hein, c'est la vie de tous les jours. Et le dernier truc qui a pas marché, c'est que j'avais prévu une matinée un peu longue et intense, et donc je tirais le groupe, et j'ai oublié de m'arrêter devant les toilettes, et qui était prévu à Borély, et on revient à la règle numéro 1, il faut qu'il y ait des toilettes.
Ok, merci. Est-ce qu'on peut enchaîner avec Boris peut-être
je t'ai entendu utiliser le terme symphonie.
Ah oui, souvent, ouais. Et chorale.
Par rapport à une balade, et notamment sur la longueur, le kilométrage.
Alors, quand je veux dire symphonie, en général, je veux dire un format complet. Il y a un repas complet, il y a une promenade complète, et je pense qu'il y a c'est expérimental. C'est empirique, il y a une espèce de formule classique, donc je dis symphonique parce que la symphonie, c'est dans la musique classique la composition qui sert des talons pour le reste, quoi. Voilà. Donc la symphonie, c'est tout, il y a tout, comme le repas, il y a tout, il y a le début, le milieu, la fin, le sucré, le salé, il y a tout dans la symphonie. Et dans la symphonie, il y a un début, un milieu, une fin, il y a un climax. Il y a une manière de savoir commencer, il y a une manière de tenir, donc c'est les quatre mouvements, il y a une manière de savoir finir. J'aime beaucoup savoir finir, je trouve ça très très drôle. Ça peut être. C'est des techniques de gestion de groupe, tu fais rire, et puis tu lâches tout le monde, tu dis plus rien. Enfin, il y a plein de manières de finir, c'est du théâtre quoi. Donc c'est des manières de compresser, décompresser le temps. Et il peut y avoir du rien, un tunnel de rien, c'est bien parce que tout ce qui était avant, tout ce qui sera après sera super. Et quand je dis chorale, ça va avec l'empathie et la participation. C'est que réellement, moi, tout ce que je dis, c'est ce que les autres m'ont appris. Et donc, il faut que les autres me parlent, et je témoigne de ça. Donc, il faut tout le temps être ouvert pour que qui a envie de participer peut participer. Alors, il y a les gros relous. Donc, maintenant, tu sais, Boris, que c'est un gros relou. À Marseille, les gros relous, tu vois, je ne sais pas comment faire. Donc, tu fais avec. Il y a eu une fois sur la Canebière où il faut gérer les... Tu vois, tu as un groupe en ville et il y a des gens qui ont envie de rentrer dedans. Et des fois, ces gens-là, ils vont mal, ils prennent de la place. Je sais pas comment dire, il faut faire avec. Il faut pas de violence, il faut pas d'agressivité, il faut pas de méchanceté, parce que sinon, tout est raté, l'ambiance, c'est pas machin. Et après, il y a des manières d'intervenants extérieurs qui sont super. Donc, les sachants qui t'apprennent, ça, tu respectes énormément. Tu les encourages, tu les souris, tu souris, tu vas dans leur sens, leur disant « Ah, mais bien sûr, etc. » Et sans se mentir à soi-même, c'est juste le plaisir d'être ensemble aussi bien, qu'ils soient de droite, de gauche, coincés sur un truc, c'est pas grave. Là, la balade de Saint-Mythe, il y avait un élu qui était dépressif, chiant et tout est bloqué. Et ben moi, je me suis éclaté avec ce mec. Et une partie de mon rôle dans la balade, ça a été que son côté, il n'y a rien qui marche, tout est pourri, il a canalisé sur moi, à qui ça faisait rien du tout, parce qu'au contraire, il savait plein de choses sur pourquoi c'était bloqué et pourri. Et moi, j'étais très heureux de les entendre. C'est vrai que c'était profond. Et comme ça, il n'a pas pourri l'ambiance du reste du groupe. Les derniers intervenants que j'aime beaucoup, moi, c'est les enfants. Je leur laisse de plus en plus de place. Il y en a là, etc. Ils témoignent de ce fait que tu as le droit de participer. Quand il y a un enfant, et il peut avoir une décontraction et une immédiateté, une spontanéité comme ça, les enfants, que nous, on n'a pas. Et c'est, moi, j'ai remarqué, hein, être très ouvert aux enfants, ça permet d'être très ouvert aux adultes. Ça montre aux adultes qu'on est très ouvert. Les enfants, c'est un des outils de l'ouverture. Les chiens aussi, c'est pas mal, je trouve. C'est un promeneur comme les autres, quoi. Il a son expérience, il a son témoignage, il a son... Et il a, ils ont un enthousiasme à la promenade qu'on n'a pas et qui nous montre. Mais moi j'adorerais quoi. J'adorerais faire ça. Et le fait de me promener avec les chiens, je prévois bientôt, je vais aller me promener tout seul et tout nu pour aller pisser un coup à droite, un coup à gauche. Et je suis sûr que ça va me faire du bien dans mon rapport à la promenade.
Non, parce que tout à l'heure tu disais que il y avait le rapport du corps, le toucher, le bruit, la danse, voilà. Tout, ouais. Et ça me ramène à la question, comment est-ce que toi tu vois le rapport de ce que l'on fait à la pratique muséale? Parce que on fait là pendant la marche, qu'on n'a pas le droit de faire dans un musée, on touche, on peut marcher sur la vitrine, on peut courir partout, on peut regarder en même temps qu'on écoute, enfin on n'est pas du tout dans la même concentration, attention, ou, enfin on... Toi, t'as un rapport au musée ou au fait que la marche soit l'anti-musée ou un nouveau musée ou...
Non, rien de définitif. Je pense qu'il y a plein de choses, on en a beaucoup parlé, c'est l'histoire de considérer l'ordinaire et le déjà là, l'immédiat, les choses qui sont là sans intermédiaire, considérées comme étant de valeur, mais c'est plus de la philosophie. Et Stendhal, il est très très beau pour ça, parce qu'il c'est l'articulation avec l'invention, c'est les Lumières, c'est l'invention de l'objectivité au 17-18e. Stendhal, il arrive après ça. Et entre-temps, il y a eu la création des musées avec la prise des biens des aristocrates. Donc tout d'un coup, le luxe, le sublime peuvent être accessibles à un grand public. Et puis, tu as ce début du 19e où tu as Stendhal qui... il va dans les musées, il pleure, et il sort du musée et il pleure. Il pleure d'émotion parce qu'il est trop ouvert aux choses, les poignées de porte sont mignonnes. Il est trop ému, quoi. Il est trop ému, autant par l'intérieur que par l'extérieur du musée. Et c'est l'équivalent, moi, je pense. Il y a l'intérieur du musée et l'extérieur du musée, c'est la même chose. L'intérieur de ma tête, l'extérieur de ma tête, c'est la même chose. C'est là, on y est ensemble. Je théorise pas trop le rapport au musée, vraiment. Et le coup de la vitrine avec la chaussure, etc. Je suis pas encore très clair là-dessus. C'est du théâtre. Tu dis que c'est du théâtre, tout est du théâtre. C'est pas.
Les gens qui commencent à faire des balades, au début, ils ont le trac parce que il faut parler, il faut dire des choses, et on se dit, il faut quand même que je dise des choses vraies.
Oui, c'est important.
Et en même temps, plus moi je suis arrivé à faire des balades, plus je me suis dit il faut en fait être assez décontracté avec l'idée de la vérité vraie et de qu'est-ce qui est vrai. Et en fait, on a le droit, enfin le guide, il peut être un peu, donc Denis dirait Gonzo, mais c'est-à-dire dire des choses. Là, ce qui est important, c'est que ce moment se passe, qu'on soit là à parler du sujet. Et de ne pas avoir peur de déraper, de dire un peu des trucs semi-faux, mais ça fait réagir. Mais ce qui est important, c'est le moment. Je ne sais pas. Et on a le droit de. Et c'est la sculpture des rumeurs.
C'est très important, c'est ça. Parce que la vérité, c'est une quête vaine. Ça n'existe pas. Perfection, ça n'existe pas. Le vrai, ça n'existe pas. Les choses, elles sont comme on a envie qu'elles soient, quoi. Et si j'arrive ici et qu'avec vous, je vous dis. Et j'ai une manière de vous prendre, j'essaye d'être gentil avec vous pour que vous ayez confiance en moi. Et puis je vous dis, c'est la meilleure opération d'urbanisme du monde. Et que je vous explique pourquoi le traitement du fossé paysager peut permettre à trois grenouilles d'amener de la mixité spéciste. Et vous allez me croire, parce que les choses, elles sont comme on veut qu'elles soient, on les déforme. Et le rapport à la vérité, je ne sais pas comment dire. Il y a une émotion de la compréhension. Il n'y a pas la vérité, il y a la compréhension qu'on ne comprendra pas, mais c'est la sagesse. Et une fois qu'on comprend qu'on ne connaîtra jamais tout, on est soi-même mystérieux dans un monde mystérieux et on partage. Alors moi, je dis l'ambiguïté pour aller vite, mais ça, c'est un grand message des arts plastiques. Ça, c'est un message de la peinture et de l'architecture. C'est-à-dire que si tu veux que ces choses-là qui ne parlent pas, qui bougent pas ou pas beaucoup, comme ça, si tu veux qu'elles envoient un message, elles enverront jamais un message. Il faut que le spectateur croie que le message vient vers eux. Donc en fait, il faut créer chez le spectateur l'ouverture à l'ambiguïté pour que lui-même crée dans sa propre vision des choses quelque chose qui corresponde à son désir de voir Hein, donc c'est l'ambiguïté. Mmh. Il y a, c'est sur France Culture, il parlait de Casanova, où les spécialistes de Casanova disent qu'il est très très difficile de savoir dans le journal de Casanova ce qui est vrai de ce qui est faux. Pourquoi ? Parce que ce qui intéresse Casanova, ce n'est pas la vérité historique. Ce qui intéresse Casanova, c'est que l'histoire soit belle. Qu'on achète ses livres, qu'on soit séduit par lui et par sa parole. Et les spécialistes de Casanova disent qu'il y a un moyen sûr et certain de savoir quand est-ce que Casanova ment. C'est que quand vous pensez que Casanova ment, c'est qu'il vous dit la vérité. Et la dernière chose là-dessus, c'est Bélanger qui dit ça, là, Aurélien Bélanger, et je trouve ça très drôle, c'est... alors, c'est... La poésie... Attends, c'est, tu la connais cette phrase ? La poésie est à la poésie ce que l'ironie est à la prose. Donc, alors... Donc, la poésie, il ne faut pas l'appeler, si tu l'appelles, elle n'est pas là, bon, il y a la poésie. La prose n'est pas la poésie. Nous allons décrire les choses ensemble et partager cette prose qui est une description des choses. Dans cette description, il faut mettre une qualité, il faut mettre une intensité. Cette intensité, c'est une manière, c'est l'ironie, c'est-à-dire que c'est quand tu dis on peut jouer avec la vérité, ou quand Casanova joue avec la vérité, ce qui est intéressant, c'est de passer un bon moment ensemble à partager l'ambiguïté des choses. Et donc, l'ironie est à la prose ce que la poésie est à la poésie, c'est que quand tu décris les choses, si tu mets un deuxième degré du conditionnel, qu'on ne sait pas si tu dis la vérité ou un mensonge, l'auditeur séduit va jouer au même jeu. Et on va participer ensemble à ça. C'est-à-dire, je pense que l'absence d'ironie, l'absence de second degré et la quête de la vérité, c'est un mur infranchissable. Voilà. Et le deuxième degré, ça permet d'avancer, etc. On vient peut-être à la politique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la politique, la prise de parti en politique, c'est une partialité, c'est déformer l'ambiguïté des choses. Mmh. C'est obliger un point de vue, un cadrage, et il ne faut surtout pas faire ça. Voilà. Il faut toujours être... le savon, l'anguille.